Vous écoutez On lit pour vous.
Une étude explore le sentiment d'attractivité chez les hommes gays en déplacement. Un texte d'Étienne Dutille, paru le 26 juin 2026 dans Fugue. Une récente étude publiée dans la revue Annals of Tourism Research met en lumière un phénomène bien connu dans les communautés LGBTQ+, le sentiment d'être plus désirable en voyage. Si l'idée circule depuis longtemps dans les récits et les expériences personnelles, des travaux scientifiques viennent désormais en préciser les contours, notamment chez les hommes gays racisés. Le gaycation, entre mythe et réalité vécue. Selon cette recherche, les hommes gays interrogés rapportent un sentiment accru d'attractivité lorsqu'ils se trouvent hors de leur environnement habituel. Ce phénomène, parfois surnommé « gaycation », s'expliquerait en partie par le changement de contexte social et les dynamiques propres aux espaces touristiques. L'étude s'appuie sur des entretiens menés auprès d'une vingtaine d'hommes queer racisés vivant à Londres, âgés de 24 à 40 ans. Les chercheurs se sont intéressés à leur expérience sur des applications de rencontres comme Grindr lors de séjours à l'étranger en adoptant une approche centrée sur l'intersectionnalité, c'est-à-dire les interactions entre races, désirs et normes sociales. Quitter un environnement perçu comme excluant. Les participants décrivent souvent leur expérience des applications de rencontre dans leur ville d'origine comme marquée par des formes d'exclusion, notamment liées au racisme, à la grossophobie ou à la transphobie, bien documentées dans ces espaces numériques. En voyage, plusieurs affirment toutefois ressentir un changement notable. Le fait d'évoluer dans un nouvel environnement leur permettrait d'échapper, du moins temporairement, aux normes de désir dominantes qu'ils associent à leur milieu d'origine. Les auteurs de l'étude soulignent que le tourisme offre l'opportunité de sortir de champs sexuels familiers, souvent vécus comme frustrants, pour entrer dans de nouveaux contextes où la désirabilité est redéfinie. L'effet de nouveauté. Un autre facteur déterminant réside dans ce que les chercheurs décrivent comme l'effet de nouveauté. Être une personne inconnue dans une nouvelle ville semble susciter davantage d'attention sur les applications, plus de messages, plus d'interactions et une plus grande facilité à organiser des rencontres. Pour les participants, cette visibilité accrue contribue à renforcer l'estime de soi et à transformer leur rapport au désir et à la séduction. Le voyage devient alors un espace de reconfiguration identitaire où les hiérarchies habituelles peuvent être temporairement bousculées. Entre libération et limite. Si les résultats mettent en évidence des expériences positives, ils n'occultent pas pour autant les enjeux structurels. Les mécanismes d'exclusion observés dans certaines villes ne disparaissent pas nécessairement, mais peuvent varier selon les contextes culturels et géographiques. L'étude invite ainsi à réfléchir à la manière dont les normes de beauté et de désir circulent à l'échelle globale, tout en soulignant que le voyage peut offrir des moments de répit ou de transformation pour certaines personnes. Le tourisme queer comme espace d'émancipation. Au-delà des applications de rencontres, ces résultats s'inscrivent dans une réflexion plus large sur le tourisme queer. Pour plusieurs, voyager constitue une occasion d'explorer son identité, de rencontrer des communautés différentes et de vivre des expériences autrement difficiles d'accès dans leur quotidien. Pour les hommes gays racisés interrogés, cette mobilité peut agir comme un levier d'affirmation personnelle, voire, dans certains cas, comme un processus réparateur. Si le phénomène du « gaycation » reste complexe et dépend de nombreux facteurs, cette étude confirme qu'il ne relève pas uniquement de l'anecdote. Il témoigne plutôt des multiples façons dont les contextes sociaux influencent les perceptions de soi, du désir et de l'appartenance. C'était « Une étude explore le sentiment d'attractivité chez les hommes gays en déplacement », un texte d'Étienne Dutille, paru le 26 juin 2026 dans Fugue.
Faire la paix avec le stress. Un dossier de Catherine Handfield, paru le 28 juin 2026 dans La Presse. Le stress est un phénomène normal, l'anxiété aussi. Pour trouver l'apaisement, faut-il d'abord faire la paix avec eux? Apprendre à mieux les gérer, mais aussi à mieux les tolérer? Les efforts de sensibilisation à propos des troubles anxieux sont-ils un couteau à double tranchant? Incursion dans ces passionnantes questions de recherche. Premier texte, le pouvoir du stress et de l'anxiété. Quand le fils de Sonia Lupien est entré à la maternelle, il s'est plaint d'un mal de ventre à sa mère. Sonia Lupien a accueilli le stress de son petit coco avec un certain enthousiasme. « C'est génial! Tu as mal au ventre! » « Il me regarde », relate Sonia Lupien, qui étudie depuis plus de 30 ans les mécanismes du stress. « Ça veut dire que tu es en train de créer une réponse de stress pour te préparer au combat de la rentrée scolaire, lui a-t-elle expliqué. Quand tu vas arriver, tu ne seras pas gêné d'aller vers de nouveaux amis et tu n'auras plus mal au ventre. 20 ans plus tard, Sonia Lupien tient le même discours réconfortant à propos du stress et elle veut le faire rayonner. Elle prépare actuellement un balado pour le mois de septembre. L'objectif? Dédramatiser le stress. J'ai arrêté d'enseigner à l'université pour faire le balado, confie-t-elle. Ça souffle encore trop sur le terrain. Je m'en vais parler au monde. Directrice du Centre d'études sur le stress humain, Sonia Lupien se demande si la mauvaise réputation du stress et de l'anxiété, perçue comme des ennemis mortels, ne contribue pas à nous rendre plus stressés. Elle n'est pas la seule scientifique à s'intéresser à l'impact de notre perception du stress. C'est un champ de recherche en ébullition depuis quelques années. Faut-il d'abord faire la paix avec le stress et l'anxiété pour s'apaiser? Préconception négative. Sonia Lupien fait souvent le parallèle du chasseur de mammouths pour parler du stress. Le stress, rappelle-t-elle, n'est pas la menace. C'est la lance que le chasseur tient entre ses mains. La vague d'énergie que le corps produit pour faire face à la situation. Et cette vague d'énergie a des effets secondaires. Mains moites, mal de ventre, chaleur, tremblement. Le stress, lorsque la menace est devant soi, et l'anxiété, lorsqu'on anticipe la menace dans sa tête, sont des phénomènes normaux, rappelle la psychologue et neuropsychologue Christine Groux, ex-présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. L'anxiété est un spectre, allant d'une émotion passagère à un trouble qui affecte le fonctionnement. Certaines personnes ont une personnalité anxieuse, ce qui est aussi normal. Sonia Lupien les appelle les super détecteurs de menaces. Elles sont plus sujettes à développer un trouble. Il faut vraiment faire la distinction entre l'anxiété normale et l'anxiété problématique, rappelle Christine Groux. Car toute forme d'anxiété n'est pas pathologique. C'est même une réaction très saine d'être anxieux par rapport à certaines situations. Or, la grande majorité des gens ont une préconception négative du stress. On l'associe à la détresse. On veut l'éviter, l'éliminer immédiatement. Cette peur du stress, Sonia Lupien l'attribue aux chercheurs qui ont surtout étudié les effets négatifs du stress et aux journalistes qui résument ces résultats. Et, plus récemment, aux réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent vraiment n'importe quoi. Les parents jouent aussi un rôle, souligne son ex-étudiante Audrey-Anne Journeau, aujourd'hui professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Nos parents nous ont-ils dit « ne stresse pas avec ça » ou ont-ils plutôt validé et normalisé nos émotions, puis nous ont guidés dans la gestion du stress? Après avoir sondé 1404 élèves dans des écoles primaires et secondaires en 2019, Audrey-Anne Journeau avait conclu que les deux tiers ressentaient parfois de l'anxiété en faisant un examen. On est loin de dire que les deux tiers souffrent d'un trouble anxieux. En revanche, un jeune sur cinq avait peur des manifestations du stress. Plus tu as peur du stress, dit Sonia Lupien, plus tu dis à ton cerveau qu'il y a une menace, plus il produit des hormones de stress. Meilleure réponse. La conception que les gens se font du stress, négative ou positive, n'est pas anodine, selon des expériences menées dans les dernières années. Lorsqu'on considère la situation et le stress comme une menace, on produit encore plus de cortisol et on performe moins bien. En revanche, lorsque l'on considère la situation comme un défi et le stress comme un outil, la réponse est mieux adaptée. C'est plus l'adrénaline, l'autre hormone de stress, qui va être prédominante, explique Audrey-Anne Journeau. Les gens qui ont des préconceptions positives du stress sont très rares, souligne Sonia Lupien. En général, ce sont des athlètes, parce qu'ils ont bien compris que quand tu es stressé, ta force physique augmente. Le stress est comme une courbe inversée, rappelle Sonia Lupien. C'est au milieu de la courbe qu'on performe le mieux et qu'on se sent le mieux. Un peu de stress augmente la vigilance, l'éveil, rappelle-t-elle. D'accord, mais comment viser le milieu de la courbe lorsqu'on a souvent visité son extrémité? On change sa préconception, répond Sonia Lupien. Dans la dernière décennie, des chercheurs ont voulu vérifier s'il est possible de modifier sa conception du stress pour avoir une réponse plus saine. Et ce serait le cas, selon une récente recension d'études, lorsqu'on explique aux gens les effets positifs du stress, ils ont tendance à produire moins d'hormones de stress et à performer un peu mieux. Quand faut-il consulter pour son anxiété? Quand ça commence à interférer avec le quotidien, le travail, les relations de travail, les relations familiales, répond le médecin psychiatre Georges Pinard. Quand on passe un temps significatif à se questionner, à ruminer, quand l'anxiété nous empêche de faire des activités ou de nous concentrer sur les choses plus constructives, quand on entre dans le cercle vicieux anxiété-insomnie. Pour qu'un médecin pose un diagnostic de trouble anxieux généralisé, l'anxiété doit être présente la plupart du temps durant au moins 6 mois, concerner un certain nombre et provoquer un certain nombre de symptômes selon les critères diagnostiques du DSM-5. Vous écoutez « Faire la paix avec le stress », un dossier de Catherine Handfield paru le 28 juin 2026 dans La Presse. Deuxième texte, plus on parle d'anxiété, plus il y en a. Dans les 20 dernières années, bien des efforts ont été déployés en Occident pour faire connaître les problèmes de santé mentale. Des campagnes gouvernementales, des interventions dans les écoles, des célébrités qui prennent la parole. Les consultations en psychologie augmentent, les prescriptions d'antidépresseurs aussi. Normalement, quand une société s'attaque à un problème de santé, le dit problème diminue, souligne la psychologue et neuropsychologue Christine Groux, ex-présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Avec l'anxiété, c'est le contraire qui se passe. Plus on le traite, plus on l'adresse, plus il y en a. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas comme il faut, estime-t-elle. Les taux d'incidence des troubles de l'anxiété ont augmenté dans les dernières années. Selon Statistique Canada, 15 % des adultes au Québec avaient déjà reçu un diagnostic en 2024, dont 2 fois plus de femmes que d'hommes. La proportion des adolescents ayant un trouble de l'anxiété a plus que doublé en 15 ans. Il atteignait 20 % des élèves du secondaire en 2023, selon l'Institut de la statistique du Québec. Les assureurs observent aussi une hausse des invalidités de longue durée chez les travailleurs, particulièrement chez la jeune génération. Il faut prendre un peu de recul, dit Mme Groux. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas à traiter si on prenait le problème à la base et qu'on le prévenait un peu plus? Les professionnels en santé mentale s'accordent. Cette hausse apparente de l'anxiété est probablement multifactorielle. La pandémie et l'isolement, les réseaux sociaux, la situation géopolitique, la crise climatique, les difficultés économiques, le rythme effréné. Dans les écoles, ce qui rend les jeunes anxieux, ce sont les examens, l'intimidation, les enseignants qui s'auto-régulent mal, l'impression de ne pas correspondre aux attentes, énumère Christine Groux. À ses yeux, c'est aussi notre tolérance à l'anxiété qu'il faut aborder. Or, selon la théorie de certains scientifiques, un autre facteur pourrait contribuer à la hausse actuelle. Les efforts de sensibilisation eux-mêmes. Prescrire le symptôme, résume Christine Groux. Inflation de la prévalence. À l'Université d'Oxford, au Royaume-Uni, des chercheurs en psychologie ont proposé en 2023 l'hypothèse de l'inflation de la prévalence. On fait connaître des troubles de santé mentale. Des gens qui en sont réellement atteints vont chercher de l'aide, ce qui est positif. Mais d'autres personnes interprètent des symptômes normaux comme étant problématiques. La prévalence augmente et la boucle se nourrit d'elle-même. Les gens pourraient donc en venir à pathologiser des symptômes normaux, à s'auto-diagnostiquer, à devenir plus réactifs au stress et à s'identifier comme des personnes fragiles. Or, l'évitement a tendance à nourrir l'anxiété. On n'est pas si fragile, rappelle la scientifique Sonia Lupien. Pensez-y, on a survécu aux mammouths de la préhistoire et aux puffins de l'époque médiévale. Cette question de recherche est intéressante, selon le psychiatre Georges Pinard, chef du département des troubles anxieux à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Mais étant donné le problème de sous-diagnostic de beaucoup de maladies mentales et les conséquences qu'un trouble anxieux non diagnostiqué peut avoir sur la personne, c'est peut-être mieux que ces maladies-là soient plus mises en évidence par des campagnes de sensibilisation. Au pire, dit-il, la personne qui est simplement un peu anxieuse se fera rassurer par le professionnel de la santé. Par contre, ajoute-t-il, là où il peut y avoir des problèmes, c'est lorsque les gens tentent de s'auto-diagnostiquer en se référant à des sources plus ou moins fiables. La sensibilisation peut, involontairement, inciter des gens à surveiller constamment leur état interne. Confiait Safietou Sakala, directrice santé mentale et périnatalité à l'Association pour la santé publique du Québec. Mais d'un autre côté, les données sont claires, ajoute-t-elle, citant des sondages sur l'augmentation de la détresse chez les jeunes et de la fatigue des travailleurs. Il y a un problème qui est là, soutient Mme Sakala. Maintenant, là où il faut faire attention, c'est dans la manière dont on aborde ce problème-là. Est-ce qu'on en parle de la bonne manière? Est-ce qu'on met le doigt sur les bonnes causes et propose les bons leviers? Dans les écoles. La sensibilisation en santé mentale a aussi lieu dans les écoles. Dans les 15 dernières années, des programmes universels y ont été déployés partout en Occident, y compris au Québec, avec les programmes D, Stress et Progress et Hors-piste, notamment. En moyenne, ces programmes ont des effets positifs sur l'anxiété et la dépression des jeunes, indique Audrey-Anne Journeau, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mais selon une analyse publiée en 2026 dans la revue Current Opinion in Psychology, certains programmes universels de santé mentale à l'école pourraient, paradoxalement, aggraver les symptômes de certains élèves. Les études menées en Australie et au Royaume-Uni sont récentes et encore peu nombreuses. D'où viennent ces potentiels effets négatifs? Selon l'hypothèse la plus optimiste, les jeunes sont simplement mieux outillés pour reconnaître une détresse déjà existante. Mais d'autres chercheurs se demandent si ces interventions universelles ne contribuent pas chez des élèves plus vulnérables, à augmenter la rumination et la comparaison. Le fait de devoir parler de santé mentale devant les autres pourrait aussi provoquer de la détresse chez certains. On n'est pas rendu à avoir les réponses, mais il y a certainement beaucoup de préoccupations par rapport à ça, dit Audrey-Anne Journeau, qui veut mettre sur pied un projet de recherche. Effet nocebo et seuil diminué. La chercheuse en psychologie, Dasha Sandra, étudie l'effet nocebo associé à la sensibilisation en santé mentale. L'effet nocebo c'est le mécanisme qui mène à éprouver des symptômes parce qu'on s'attend à les ressentir. De plus en plus d'études ces derniers temps démontrent que le fait de se documenter sur les traumatismes, le TDAH ou encore l'anxiété pousse les gens à s'auto-diagnostiquer davantage, dit Dasha Sandra. Diplômée de McGill, elle fait son doctorat à l'Université de Toronto et donne aussi l'exemple de ces adolescents qui ont développé des tics complexes pendant la pandémie, après avoir visionné des vidéos d'influenceurs atteints du syndrome de Gilles de la Tourette. En parallèle, plus les années passent, plus le seuil de ce qui constitue un problème en santé mentale tend à diminuer, dit-elle. Ça semble être le cas du trauma, de la neurodivergence, du trait narcissique et de l'anxiété. De plus en plus de choses qui autrefois n'étaient pas considérées comme de l'anxiété le sont aujourd'hui, résume-t-elle. Les efforts de sensibilisation ont des retombées positives, convient Dasha Sandra, qui pense à la réduction du stigma en santé mentale, mais encore faut-il que le système ait la capacité d'accueillir les demandes d'aide qui suivront. S'il manque de professionnels dans les écoles, il y a peut-être quelque chose de contre-productif, dit la professeure Audrey-Anne Journeau. La solution vers l'apaisement passe par plusieurs leviers, mais les experts cités dans ce dossier s'accordent sur un point. L'éducation est une clé de l'équation. C'est correct et normal d'avoir des attentes négatives et des symptômes, mais ça ne veut pas dire qu'on a un problème sous-jacent, résume Dasha Sandra. Comprendre à quoi sert le stress, accepter l'inconfort temporaire et savoir quand on doit s'inquiéter. Je pense que c'est ça l'élément clé, dit Audrey-Anne Journeau. C'était « Faire la paix avec le stress », un dossier de Catherine Hanfield, paru le 28 juin 2026 dans La Presse.